Vous êtes avec SBS French. Et tout d'abord, les grands titres de ce 31 octobre, les dirigeants du G20, des plus grandes économies du monde, se réunissent pour approuver un accord fiscal mondial et discuter des vaccins contre le coronavirus pour les pays les plus pauvres. Une nouvelle campagne d'information publique visant à accroître la sensibilisation à l'importance de la cybersécurité et à améliorer la sécurité en ligne sera lancée en Australie ce dimanche. Les dirigeants du G20 se sont réunis dans la capitale italienne, à Rome, pour leur premier sommet du G20 en 2 ans, pour discuter d'un large éventail de questions, notamment la réforme fiscale et la pandémie mondiale de coronavirus, notamment l'envoi de plus de vaccins Covid aux pays les plus pauvres. Le Premier ministre italien, Mario Draghi, a ouvert le sommet et a appelé à la coopération pour mettre fin à la pandémie mondiale de coronavirus.
The more we go with all our challenges, the more it is clear that multilateralism is the best answer to the problems we face today.
Le Premier ministre australien Scott Morrison a également souligné la nécessité de lutter contre la pandémie.
This is a very pivotal time for the world. The pandemic is still raging and the economic recovery, particularly in the developed world, is really getting underway. And so it's important that we balance these challenges as we go forward.
Le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine ne participent pas au sommet, mais sont plutôt apparus par vidéo. Les pays pauvres sont absents et l'ONG One se veut être leur porte-parole. Explication de Dominique Bayard pour RFI.
Les pays les plus riches ont beaucoup promis, mais encore trop peu livré de vaccins, déplore l'ONG britannique. Elle exige aujourd'hui de la transparence sur les engagements pris. Pour sa directrice Europe, Emily Wiggins, l'autre urgence, c'est l'économie.
On entend beaucoup parler de la relance de l'économie mondiale, mais les faits sont là. Dans les pays riches, l'économie a déjà retrouvé son niveau d'avant la pandémie, tandis que dans les pays à bas revenus, et surtout en Afrique subsaharienne, ils se débattent encore avec la crise.
Pour les aider, la solution est là. Ce sont les fameux DTS, les droits de tirage spéciaux, les fonds débloqués cet été par le FMI, qui bénéficient surtout aux plus riches, rappelle Emily Wiggins.
Par exemple, si vous prenez le Canada, il reçoit plus de DTS que l'Ouganda, un pays en plus grande difficulté économique et avec une population bien plus importante. Donc, on veut que le G20 rétablisse l'équilibre. La France le fait déjà, en consacrant 20% des fonds alloués aux pays à bas revenus. On aimerait bien que d'autres suivent.
Dernier point crucial pour l'ONG One, le fonds climat. Encore une promesse non tenue, les 100 milliards de dollars que les pays pauvres devaient recevoir dès 2020 seront atteints en 2023. Trop tard pour One, c'est maintenant que les pays riches doivent tenir leurs promesses avant l'ouverture de la COP26.
Et voilà donc pour ce reportage de Dominique Bayard. Et puis hier à Rome, plusieurs démonstrations pacifiques pour la justice climatique. Anne Lenir, RFI.
Réunis sous la bannière « Vous le G20, nous l'avenir », défilant au rythme des tambours et tambourins, les milliers de personnes contre ce sommet des pays les plus riches ont manifesté de manière totalement pacifique. Après un parcours de plusieurs kilomètres, le cortège, composé surtout de jeunes étudiants, s'est dissous devant la très symbolique bouche de la vérité. Avec cet appel lancé en chœur, nous demandons la justice climatique. Une autre manifestation organisée par le comité d'obédience communiste, No Draghi, s'est tenu sur la célèbre place San Giovanni et n'a rassemblé qu'environ 200 contestataires. Les anti-G20 se sont donné un nouveau rendez-vous ce dimanche. Ils se réuniront dans le théâtre du quartier populaire de la Garbatella.
Et puis un large éventail de questions a été discuté, notamment l'approbation d'un accord sur un impôt minimum mondial sur les sociétés de 15% en vue d'avoir les règles en vigueur en 2023. En octobre, 136 pays sont parvenus à un accord sur un impôt minimum sur les sociétés mondiales, y compris des géants de l'Internet comme Google, Amazon, Facebook, Microsoft ou Apple, pour leur rendre plus difficile l'évasion fiscale en établissant des bureaux dans des juridictions à faible imposition. Le chef de l'OCDE et ancien ministre australien des Finances, Matthias Cormann, a déclaré que cela changerait la donne.
The 100 thereabouts largest and most successful multinationals around the world now have to pay their fair share of tax in the markets in which they operate and generate profits. And on top of that, we've also agreed, and leaders have agreed, to a pillar two of that reform, which introduces a minimum corporate tax rate of 15%. So what that does, it completely eliminates the incentive for businesses around the world to restructure their affairs in order to avoid tax.
Le président russe Vladimir Poutine a appelé les économies développées du monde à reconnaître mutuellement leurs certificats de vaccin pour aider à redémarrer l'activité économique après la pandémie de Covid-19. Vladimir Poutine a appelé au développement de mécanismes pour un renouvellement systémique et rapide des vaccins contre le Covid-19, le virus devant continuer à muter. Le premier ministre australien Scott Morrison a rencontré le président français Emmanuel Macron pour la première fois depuis que l'Australie a abandonné le programme de sous-marins français de 90 milliards de dollars. La brève rencontre s'est produite donc en marge du sommet du G20 à Rome et intervient après que le président Macron ait téléphoné à Scott Morrison avant son départ pour l'Europe. Et au cours de cette conversation, le président français a déclaré à Scott Morrison que l'Australie, je cite, avait rompu la relation de confiance entre les deux pays.
He was having a chat to someone. I went up and just put my arm on his shoulder. I said, "G'day, Emmanuel, and look forward to catching up over the next couple of days."
En Australie, une nouvelle campagne d'information publique visant à accroître la sensibilisation à l'importance de la cybersécurité et à améliorer la sécurité en ligne sera lancée ce dimanche. La ministre de l'Intérieur, Karen Andrews, a déclaré que la campagne offrirait des conseils utiles à tous les Australiens qui utilisent Internet ou qui possèdent un appareil numérique. Elle déclare que les téléphones, les smartphones, les téléviseurs, les routes Wi-Fi, les comptes de médias sociaux, les emails et les transactions de commerce électronique peuvent tous être exploités par des criminels. Le grand homme du show business australien, Burt Newton, est décédé à l'âge de 83 ans après avoir subi des soins palliatifs à Melbourne. La longue carrière de Newton, qui a commencé dans les années 50, comprenait des représentations à la radio, à la télévision et au théâtre. Les Néo-Zélandais seront libres de venir dans le Victoria et en Nouvelle-Galles du Sud sans quarantaine à partir de demain, lundi 1er novembre. Le ministre du Commerce, Dan Tehan, a déclaré qu'il s'agissait d'une étape importante dans l'ouverture des frontières australiennes.
So we're looking for news in the coming days with regards to Singapore. We've had that under active consideration, and as of Monday, as of tomorrow, Australians doubly vaxxed will be free to leave. This is wonderful news for Australians because Australians love to travel.
La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 177 nouveaux cas de COVID-19 et un décès ce dimanche. C'est la première fois en près de 3 mois que le nombre de cas passe en dessous de 200. Le nombre d'hospitalisations a également légèrement diminué. Le Victoria a enregistré 1036 cas de COVID-19 et 12 autres décès liés au virus ce dimanche. Plus de 700 patients atteints du virus sont toujours hospitalisés, dont 128 en soins intensif. Le Victoria est désormais entièrement vacciné à 80% pour les personnes âgées de 16 ans et plus. L'Australie occidentale resserre davantage sa frontière, interdisant les voyageurs non vaccinés du Victoria, de New South Wales et de l'ACT à partir de cette semaine. Mark McGowan, qui dirige le WA, introduira à partir de vendredi prochain une politique de vaccination complète contre le Covid-19 pour les voyageurs en provenance de juridictions à risque moyen, élevé et extrême. Le Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud sont actuellement considérés comme à risque extrême, tandis que l'ACT est considéré comme risque moyen. La politique sera étendue aux États et territoires à faible risque à partir du 15 novembre prochain, bien qu'aucun État et territoire ne relève actuellement de cette classification. Le risque très faible est en place pour le Queensland, la Tasmanie, l'Australie méridionale et le territoire du Nord. Le vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 autorisé pour les enfants âgés de 5 à 11 ans aux États-Unis. Les précisions de Valérie Cohen pour RFI.
Pour les 5-11 ans, Pfizer et BioNTech ont développé un vaccin moins concentré que celui destiné aux plus de 12 ans. La quantité de principe actif, le fameux ARN messager, est de 10 microgrammes au lieu de 30. Alors quid de son efficacité? Selon des essais cliniques menés par Pfizer chez des enfants de cette tranche d'âge, elle serait de 90% sur les formes symptomatiques de Covid. Des analyses de la réaction immunitaire vont aussi dans le sens d'une bonne protection. Le dosage des anticorps neutralisants chez les 5-11 ans s'est révélé similaire à celui des 16-25 ans vaccinés, eux, avec le produit initial. Du côté des risques liés au vaccin, il n'y a pas eu d'effet indésirable sérieux parmi les 3000 enfants vaccinés lors des essais, en particulier pas de myocardite, une inflammation du cœur, mais cela reste un point de vigilance. En effet, il a fallu des millions d'injections de vaccins ARN messager chez les adultes et les jeunes pour mettre au jour cet effet indésirable très rare qui semble un peu plus toucher les garçons adolescents. Alors existe-t-il aussi chez les 5-11 ans avec le vaccin qui leur est dévolu? Le déploiement de la vaccination dans cette tranche d'âge permettra de le savoir. En tout cas, pour la FDA, les bénéfices du vaccin l'emportent sur les risques éventuels chez ces enfants.
Au Canada, le gouvernement souhaite indemniser les enfants autochtones. Précision de Christophe Paget pour RFI.
En 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne estimait qu'Ottawa avait discriminé les enfants autochtones en sous-finançant volontairement les services à l'enfance et à la famille dans les réserves, ce qui a conduit au placement de milliers d'enfants dans des familles d'accueil. Le gouvernement canadien a été condamné à indemniser ces victimes, estimées à plus de 50 000, ainsi que leurs parents et grands-parents à hauteur de 40 000 dollars canadiens. Ottawa avait fait appel en 2019, estimant que pour une indemnisation individuelle, il fallait prouver un préjudice individuel. Appel perdu le mois dernier. Un nouvel appel a donc été annoncé hier. Cette fois, le gouvernement veut se donner du temps pour trouver un accord à l'amiable avec les organisations autochtones d'ici fin décembre. Et insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de réduire les montants décidés par les tribunaux, mais de dédommager équitablement les victimes et changer le système. Des représentants de ces enfants se sont dit déçus. La saga judiciaire dure depuis 14 ans. Mais selon Ottawa, deux groupes, dont l'Assemblée des Premières Nations, ont accepté de négocier. L'un d'eux a annoncé que si aucun accord n'était trouvé, ils iraient aux audiences dans le cadre d'une procédure accélérée. Nous ne voulons pas que les enfants perdent davantage de temps.
Adam Kinzinger, le républicain élu de l'Illinois à la Chambre des représentants et opposant de Donald Trump, a décidé de prendre sa retraite politique aux prochaines élections. David Thompson, RFI.
Il est l'un des rares républicains à oser encore critiquer Donald Trump et son refus obstiné de reconnaître sa défaite. Un positionnement qui coûte cher chez les conservateurs américains car l'ancien président reste la personnalité la plus influente dans son parti. Les sondages sont unanimes. Deux tiers des républicains, dupés par la rhétorique fallacieuse de leur chef, croient toujours que la victoire leur a été volée. Minoritaire, vilipendé dans son propre parti, Adam Kinzinger, 43 ans, représentant de l'Illinois depuis 2011 à la Chambre, renonce donc à se représenter.
Notre parti survit en séduisant uniquement sa base la plus extrême. En tant que pays, nous devons nous débrancher de toutes les contre-vérités qu'on nous inflige. Au Congrès, j'ai vu combien les divisions sont profondément enracinées. Presque aucun désir de nous rapprocher. Le mot « unité » n'existe plus.
Et de deux, plus que huit, s'est immédiatement réjoui Donald Trump qui a juré de se venger contre ses 10 élus républicains qui ont osé voter son impeachment après l'attaque du Capitole le 6 janvier. Aux prochaines élections, chacun aura donc face à lui un candidat soutenu par Donald Trump. Sur ces 10 républicains dissidents, Kinzinger est en effet le second à jeter l'éponge.
On passe à la météo pour ce dimanche. En Australie, à Perth, il fera 25 degrés. Adélaïde, 23. Melbourne, 21. Hobart, 18. Canberra, 20. Sydney, 24. Brisbane, 25. Cairns, 33. Darwin, 35. Et à Alice Springs, maximal de 23 degrés. Un rappel des grands titres de ce 31 octobre, les dirigeants du G20, des plus grandes économies du monde, se réunissent pour approuver un accord fiscal mondial et discuter des vaccins contre le coronavirus pour les pays les plus pauvres. Et puis en Australie, hommage à la légende australienne du show business, Bert Newton, décédé à l'âge de 83 ans. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le foot, la Ligue 1 en France. Il y avait deux matchs hier. Lyon qui a battu Lens 2-1, Cédric De Oliveira. Radio France Internationale.
Victoire de Lyon face à Lens 2-1. Un but lyonnais du Camerounais Karl Toko-Ekambi sur penalty. Douce Mawar côté lyonnais. Il y avait 2-0 pour les Lyonnais donc. Et réduction du score d'Arnaud Kalimuendo pour les Lensois. Ça fait donc 2-1. Les Lensois qui sont pas passés loin donc de cette victoire. Mais qu'est-ce qu'il a manqué à ces nordistes pour aller chercher la victoire? Eh bien, Gaël Kakuta répond.
De jouer avec plus de personnalité, je pense. Et après, voilà, comme j'ai dit, j'ai une occasion qui peut changer le match. Mais bon, on a quand même bien fini, comme d'habitude, on montre tout le temps un beau visage. D'habitude, on montre beaucoup mieux que ça. Voilà, aujourd'hui, on a un petit peu reculé dès le début de match. Et je pense que ça leur a donné confiance. Et une équipe comme ça, avec ces joueurs de qualité, ça paye cash. Il y avait au moins la place pour faire un match nul.
C'est vrai.
Mais bon, on va essayer de corriger les erreurs et fermer le prochain match.
Le Congolais Gaël Kakuta, passeur décisif sur le but de Kalimuendo. Il répondait au micro de nos confrères de Canal+. Gaël Kakuta, on rappelle, prix Marc-Vivien Fauhé.
Et puis Metz et Saint-Etienne ont fait match nul, un but partout. En Angleterre, la 10e journée marquée par la victoire de Chelsea, premier au classement, contre Newcastle, 3-0. Liverpool et Brighton ont fait match nul, 2-2. Manchester City a été battu par Crystal Palace 2-0. Manchester United, 7e au classement, a battu Tottenham 3-0. En Espagne, la 12e journée marquée par la victoire du Real de Madrid contre Elche 2-1. Séville, 2e au classement, a battu Osasuna 2-0. Ronald Koeman, entraîneur du FC Barcelone, licencié mercredi dernier. Et c'est Sergi Barwan qui est le coach par intérim, comme nous l'explique Antoine Grenier pour RFI.
Le Néerlandais remplacé sur le banc catalan par Sergi, ancien latéral du club et qui dirigeait jusque-là la réserve. Il assure l'intérim en attendant de trouver un technicien plus expérimenté, mais le changement d'entraîneur était indispensable, estime le président du FC Barcelone, Juan Laporta.
Notre avis, partagé par la direction technique du club, est que la situation était devenue insoutenable. Et nous avons la conviction que si nous n'agissions pas, le club risquait de perdre une grande partie de ses objectifs de la saison, à savoir essayer de remporter des titres. À l'heure actuelle, les choses ne sont pas faciles, mais nous sommes toujours en course en championnat et en Ligue des Champions. Et nous allons aussi jouer la Coupe du Roi. Sergi devient notre entraîneur, nous avons totale confiance en lui et il restera jusqu'à l'arrivée du nouveau coach. Vous m'excuserez de ne pas dévoiler son nom en ce moment, car nous devons gérer ces informations de manière réservée.
La réserve de les options que tenons.
Juan Laporta, le président du FC Barcelone.
En Allemagne, le Bayern de Munich s'est imposé contre l'Union Berlin 5-2. En Italie, la 11e journée marquée par le match nul entre l'Atalanta Bergame et la Lazio Rome 2-2. La Juve de Turin s'incline face à Hellas Vérone 2-1. Au Portugal, Benfica premier au classement et Estoril ont fait match nul, un but partout. Le FC Porto deuxième au classement a battu Boavista 4-1 et le Sporting Portugal troisième au classement a battu Vitória Guimarães 1-0. Kylian Mbappé a de nouveau déclaré sa flamme aux Jeux olympiques et veut réaliser son rêve de gosse comme icône de l'esprit olympique pour Paris 2024. Écoutez Annie Gasnier pour Radio France Internationale.
J-1001 jours, Paris prendra date dans son compte à rebours à 1000 jours de très précisément des Jeux Olympiques, comme le prouve le décompte officiel, seconde par seconde, que vous pouvez regarder sur le site officiel de la future 33e Olympiade. Un compte à rebours pour allumer la flamme, ça sera le 26 juillet 2024. Allumer la flamme, eh bien, elle brille déjà dans les yeux de Kylian Mbappé. Dans ses yeux et dans sa voix, vous allez l'entendre parce que hier, il s'y est engagé sur les antennes de France Info, réuni avec beaucoup d'athlètes. Il participera aux Jeux qui l'ont toujours fait vibrer depuis qu'il est petit.
C'est vraiment la chose que je veux réaliser dans ma carrière. C'est vraiment l'ADN même du sport. C'est l'événement qui rassemble le monde entier. C'est l'événement qui rassemble les passions. C'est l'événement qui rassemble toutes les personnes, grandes et petites. C'est l'occasion d'ouvrir son sport au monde, de le faire découvrir, de découvrir d'autres sports aussi. Et je pense que c'est la meilleure occasion pour un sportif de vivre son rêve. Mais Paris, ça rajoute quelque chose de spécial. Bien sûr, c'est chez nous. On a l'occasion de montrer au monde qu'on est des amoureux du sport et qu'on respecte nos sports. Et donc, j'espère qu'on va tout faire pour organiser les meilleurs jeux possibles. Bien sûr, gagner, mais surtout donner la meilleure image possible de notre pays.
La CAN de 2023 se jouera en Côte d'Ivoire et les travaux concernant les infrastructures traînent, comme nous l'explique Yuen Gourlet pour RFI.
Nous sommes particulièrement préoccupés par les délais de livraison de ces infrastructures. Tels ont été les mots du Premier ministre ivoirien Patrick Achi hier à la fin de la visite du stade de Korogo. La ville du Nord ivoirien doit accueillir plusieurs matchs de la CAN en juin et juillet 2023. Le chef du gouvernement a publiquement chargé les responsables des différentes infrastructures en construction de travailler jour et nuit pour terminer les travaux à temps. Le calendrier initial était prévu pour mai 2021, mais n'a pas été respecté. Les entreprises assurent que le stade sera terminé à 98% le 31 décembre. Patrick Achi était hier au micro de la télévision nationale ivoirienne.
Les délais devraient normalement être tenus, mais il faut toujours avoir, je dirais, l'œil sur ces questions extrêmement sensibles et nous viendrons régulièrement suivre le chantier.
Pour le moment, aucun stade ivoirien n'est aux normes. Le stade des Bimpé attend toujours sa nouvelle pelouse. Ceux de Boaké et San Pedro sont encore en construction. Le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan est en travaux et celui d'Yamoussoukro, pas encore aux normes. C'est donc un comble. Le futur organisateur de la CAN ne peut pas jouer à domicile, comme pour le match Côte d'Ivoire-Malawi le 11 octobre. Les éléphants accueilleront donc le Mozambique à Cotonou le 11 novembre prochain. Pour éviter les mauvaises surprises, la CAF a donc prévu d'ouvrir en février 2022 un bureau sur le sol ivoirien afin d'accompagner le pays hôte dans les préparatifs.
Rugby, les tests match d'automne avec la victoire de la Nouvelle-Zélande contre le Pays de Galles 54-16 hier. On passe au tennis avec le tournoi de Vienne, la finale ce dimanche entre Zverev l'Allemand et Tiafoe l'Américain. À Saint-Pétersbourg, finale ce dimanche entre Fritz l'Américain et Cilic le Croate. Chez les dames, le tournoi de Courmayeur en Italie avec Towson, la Danoise, qui jouera Vekic, la Croate, en finale ce dimanche. En Roumanie, le tournoi de Cluj avec Alep, la fille du sol, qui jouera contre Kontaveit, l'Estonienne. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français.
Thank you.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Notre personnage de la semaine, en ce dimanche, une personnalité en lien avec l'actualité. Pour nous en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Focus aujourd'hui sur le général Al-Burhan à la tête du coup d'État de lundi dernier au Soudan.
Oui, c'est lui, le général Abdel Fattah Al-Burhan, la figure de ce coup d'État militaire. De fait, il était déjà aux commandes du Soudan depuis deux ans, depuis la chute d'Omar el-Béchir en 2019, puisqu'il occupait, le général Abdel Fattah Al-Burhan, la tête du Conseil militaire de transition, instance mise en place en avril 2019. Mais depuis la chute d'Omar el-Béchir, qui lui était resté au pouvoir une trentaine d'années, les militaires et les civils se partageaient le pouvoir. Depuis 2019, on était dans le cadre d'une transition qui devait déboucher sur des élections générales, au plus tard en 2024. Mais voilà, lundi dernier, le général Abdel Fattah Al-Burhan et ses proches ont sifflé la fin de la récréation. Ils ont dissous les autorités de transition. Le gouvernement, les ministres, les dirigeants civils ont été arrêtés, à commencer par le Premier ministre Abdallah Hamdok. Les militaires ont décrété l'état d'urgence. Toutes les communications, les connexions Internet ont été coupées dans le pays. Un blackout, le Soudan, qui vit de graves heures d'incertitude dans une sorte de huis clos.
Comment le général Al-Burhan justifie-t-il ce coup d'État ?
Alors, il s'est exprimé à la télévision, il a expliqué que ce coup d'État était devenu inéluctable de par la faute des civils qui géraient avec les militaires les autorités de transition. Le général Al-Burhan a mis en avant leur division, les ambitions des uns et des autres qui ne pouvaient que diviser, que la situation n'était plus tenable. Il faut dire que la semaine dernière, quelques jours avant le coup d'État, on sentait bien que la tension montait dans le pays avec des centaines de milliers de Soudanais qui avaient défilé pour mettre justement la pression sur les militaires et plus généralement sur les différentes parties, car il y a une feuille de route, il y avait une feuille de route dans le cadre de cette transition. Les militaires ont passé un accord avec plusieurs partis politiques, le FFC, les Forces pour la Liberté et le Changement, qui est une coalition de partis issus du soulèvement pacifique de 2019, ce soulèvement qui a poussé Omar el-Béchir vers la sortie, cette révolution partie de la rue, les grandes grèves, les manifestations auxquelles une partie de l'armée avait fini par se rallier en 2019, lâchant Omar el-Béchir, cette transition, on le sentait bien depuis plusieurs semaines, était extrêmement fragile avec les ambitions des uns et des autres. Alors les militaires accusaient ces dernières semaines les civils faisant partie des instances dirigeantes de mauvaise gestion, avec un Premier ministre Abdallah Hamdok décrié par une partie de la population sur fond de misère économique. Des dissensions sont apparues entre les différents leaders politique, civile. Il y avait aussi des désaccords profonds sur le sort d'Omar el-Béchir. Faut-il ou non le remettre à la communauté internationale, à la Cour pénale internationale, la CPI, qui veut juger l'ancien président soudanais pour crimes contre l'humanité, pour son rôle, notamment il y a plusieurs années, dans la guerre du Darfour. Les militaires n'y sont pas favorables, contrairement aux civils, craignant sûrement, s'ils remettaient Omar el-Béchir à la CPI, de créer un précédent et de se voir, eux aussi, peut-être un jour inquiétés par la justice internationale. Dans le processus de transition, en tout cas, il était prévu que dans un mois, en novembre, le général Al-Burhan passe le relais, que ce soit un civil qui prenne la tête de la transition à sa place. Et c'est tout ce contexte qui a mené, bien entendu, au coup d'État du lundi 25 octobre. Abdel Fattah Al-Burhan, qui est âgé de 61 ans, qui a effectué ses études en Égypte et en Jordanie, il occupait un poste haut placé dans l'armée de terre avant 2019, avant donc de sortir progressivement de l'ombre.
Quelle est la situation sur place au Soudan ? Comment réagit la population à ce coup d'État militaire ?
Bien, la population soudanaise, elle est divisée. Il y a ceux qui souhaitaient une reprise en main forte de l'armée et tous ceux qui estiment qu'on est en train de leur voler leur révolution. Des comités de résistance s'organisent dans les quartiers à Khartoum, la capitale, mais pas seulement, dans tout le pays. Difficile de s'y retrouver entre les coupures des moyens de télécommunication, les barrages militaires et les barrages, les barricades érigées par des manifestants. Des appels à la grève générale ont été lancés, les arrestations se multiplient, les ministres, on l'a dit, ont été interpellés et pas tous relâchés, mais dans la population aussi, des activistes, étudiants, jeunes sont ciblés, sont arrêtés. Les comités de résistance avaient appelé ce samedi à une mobilisation générale dans tout le pays, 1 million de personnes qui étaient attendues dans les rues. Le Premier ministre, qui était retenu au domicile du général Al-Burhan depuis lundi, il a été libéré, il a été ramené chez lui et a été placé sous surveillance renforcée. L'une des questions qui se pose est de savoir si finalement le général Al-Burhan a suffisamment de soutien au sein même de l'armée pour imposer ce coup de force à l'ensemble du pays. Quels sont ses réels soutiens? Les militaires, la hiérarchie militaire, va-t-elle accepter, s'il le faut, de réprimer durement, dans le sang, les manifestations? Omar el-Béchir avait tenté de le faire en 2019 et on a vu que les manifestants pacifistes avaient résisté et qu'ils avaient fini par obtenir son départ. Le pays semble plus divisé que jamais, le Soudan, entre les intérêts des uns et des autres. Et à l'extérieur, eh bien, le jeu des grandes puissances est là. N'oublions pas que du temps d'Omar el-Béchir, le Soudan, hein, ce pays d'Afrique de l'Est, avait été banni par la communauté internationale, embargo économique imposé par les États-Unis, pour qui le Soudan était haut placé sur la liste des pays soutenant le terrorisme. Bien, depuis 2019, avec la transition mise en place, civils et militaires, cet étau s'est desserré. Au début de l'année 2021, les autorités soudanaises, avec donc à leur tête le général Al-Burhan, ont accepté de normaliser les relations du Soudan avec Israël, ce qui a eu pour conséquence d'ouvrir la voie à un retour de l'aide américaine avec cet axe Israël-États-Unis. Le général Al-Burhan a réitéré d'ailleurs mardi, lors de sa prise de parole à la télévision, sa volonté d'aller vers cette normalisation, preuve qu'il a conscience du besoin qu'a le pays de ce soutien, de cette aide internationale. Mais le coup de force de lundi a mis fin à cet élan démocratique. Va-t-il relancer un processus de transition, le général Al-Burhan, un calendrier avec des élections, ou va-t-il chercher à asseoir définitivement un pouvoir autoritaire? C'est l'une des nombreuses incertitudes. Ce coup d'État, en tout cas, ravit l'Égypte, dirigée de main de maître par Abdel Fattah el-Sissi. Les Égyptiens ne cachent pas leur préférence pour un pouvoir fort, un pouvoir contrôlé par les militaires, comme chez eux, en Égypte, plutôt que par des civils, l'Égypte et les pays du Golfe, qui apparaissent comme les premiers soutiens des militaires et du général Al-Burhan.
Merci Émile pour avoir présenté ce personnage de la semaine. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Vos conversations. SBS French.
Eh bien, j'ai le plaisir d'avoir Major Zulu qui va se présenter au Sydney International Women's Jazz Festival. C'est entre le 12 et le 21 novembre. Bonjour et bienvenue sur SBS French.
Ah, merci beaucoup. Hein. C'est très gentil. Je suis très contente d'être ici. Hein.
Absolument. Et vous allez présenter un concert pour la soirée de clôture. Le 21 novembre, c'est au Foundry 616. Alors, Parlez-nous de ce concert que vous allez présenter, le répertoire des chansons.
Ah oui, merci. Écoutez, moi, je vais clore le spectacle le 21 novembre. Oui. Et là, j'ai de très bons musiciens. First of all, je suis très contente hein, parce que là, on était dans lockdown et c'était horrible. Mmh. On n'a pas vraiment, on n'a pas fait de concert. Alors, c'est très, très intéressant. C'est très cool de faire ça. So, j'ai de très intéressants musiciens internationaux. OK, mon batteur, il vient de Londres. L'autre, il vient de Côte d'Ivoire. C'est le bassiste. Et son fils. Et il y a aussi quelqu'un qui vient de Sri Lanka et aussi Australie. C'est vraiment des musiciens très, très cool. Et là, écoutez, je vais, I'm going to celebrate les grands chanteurs de jazz. Et aussi, moi, j'ai fait mon répertoire aussi de musique originale que j'ai écrit avec Andrew Morrison. Alors, oui, pour moi, c'est partager, c'est juste être ensemble et enjoy the music. Hein?
Absolument. Et je sais que vous avez un deuxième single qui vient de sortir, je crois. Ça s'appelle Broken. Et ça parle de quoi?
Ça, c'est une histoire d'amour hein, qui se passait à Paris quand j'habitais à Paris. Et, c'est une très grande histoire d'amour qui dure à 4 minutes. Hein, mais alors, c'est des jours de douleur, comme souffrance. Mais aussi, j'ai adressé mes comportements de, comment on dit, love addiction, you know?
Oui, addiction.
Ah, c'est ça. Hein? Et vraiment, c'est ça. Tout simplement. J'adore, I mean, le process d'écrire Broken, c'était vraiment cool. J'avais de très bons musiciens là, mais oui, c'est ça.
Comment est-ce que vous allez définir votre style musical?
C'est un mélange, parce que moi, j'ai grandi avec du gospel. J'adore gospel aussi. Mon père, il était fan de jazz, music. Mais aussi, mon oncle, il était un musicien de jazz. Mais aussi, j'habitais à Paris, je fais beaucoup de jam au Duc de Lombard et aussi à Trianon. J'ai découvert beaucoup d'artistes là-bas. À Londres, quand j'habitais là-bas aussi, j'ai fait beaucoup de jam. Il y avait deux petits endroits. Comment on s'appelle? Ten Rooms et aussi Troy Bar. Et c'était vraiment, vraiment petit, mais tous les grands artistes comme Prince, Chaka Khan, ils venaient là-bas et on jamais ensemble. C'était comme ça, même Amy Winehouse. So, c'est là que j'étais inspirée de commencer mon projet. C'est un mélange de leçons, c'est un mélange de jazz et aussi soul. Hein? C'est comme ça, oui. Un peu de gospel, quelquefois.
Et vous chantez aussi en français
Quelquefois, oui, il faut, hein? Il faut essayer. Il y a une chanson que j'adore beaucoup, Jardin d'hiver.
Ah oui, absolument.
Quelquefois, oui, je mets dans mon répertoire des chansons françaises. C'est cool, j'adore chanter en français, moi. Ouais.
Et vous,
c'est
vous
plus avez... facile de chanter en français que parler. Hein? Parce qu'ici, à Sydney, j'ai perdu mon français.
Et d'après ce que je comprends, vous avez aussi joué dans un film en français, c'est ça?
Oui, 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 c'est vrai. C'était Emily DeLouise. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était une chanson qui s'appelle Jamais Contente, c'est ça.
Jamais Contente, d'accord. Donc, ouais, vous aviez un rôle de musicienne?
Oui, c'est ça, toujours.
Il y a aussi un single qui est sorti en mai de 2021 qui s'appelle Trying Times.
Ah oui, 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 c'est vrai. J'adore cette chanson parce que pour moi, c'était très important de chanter quelque chose qui était profond et aussi qui represented the times. Il y avait du COVID et aussi les gens étaient vraiment séparés. Il y avait beaucoup de racisme, George Floyd, tout ça.
Oui.
Et pour moi, parce que mon père, il habitait à Zambie, il a souffert beaucoup dans le régime britannique, comme vous connaissez, le colonialisme. Et ça me faisait mal hein, parce que les gens, they were fighting on the internet, you know, George Floyd. Et pour moi, il fallait faire quelque chose, il fallait m'exprimer hein, dans la musique hein, pour qu'on change quelque chose, we come together and love one another, you know?
Oui, oui. Et vous parliez de votre père, donc d'après ce que je comprends, vous aviez grandi en Zambie, puis à Londres. Et puis, vous êtes installé à Paris et les États-Unis. Est-ce que vous gardez de bons souvenirs de ces endroits?
Ah oui, hein, Paris toujours, ça, c'est dans mon cœur. Ouais. Parce que même tous les endroits, j'adore. Mais mon pays favori, c'est France. Hein. C'est là, vraiment, j'adore les Français, moi, la nourriture, la culture. Il y a toujours la musique. C'est a city that doesn't sleep, really, you know, pour moi.
Ouais.
Mais j'adore aussi Sydney, hein, j'adore. C'est juste la musique, ça se passait bien, hein, pareil pour moi.
Et qu'est-ce qui vous a emmené à Sydney, en Australie?
À l'amour. Bien sûr.
Évidemment.
Évidemment, oui, c'est ça. J'espère que ça ne va pas être broken maintenant, mais quand même, c'est l'amour. J'ai tombé amoureuse d'un Australien, alors pas de choix. Hein.
Et dites-moi, en tant qu'invité du Sydney International Women's Jazz Festival, quel est le message de la contribution des femmes à la musique jazz?
Ah oui, écoutez, hein, les femmes sont vraiment, ils ont vraiment contribué au jazz. I mean, il y a de grandes chanteuses comme Sarah Vaughan, Billie Holiday, Ella Fitzgerald. J'adore les voix là. Mais aussi, il y a aussi des musiciens comme Mary Lou Williams, qui they were instrumentalists. Hein? Et aussi, on ne parle pas beaucoup, mais la femme de Louis Armstrong était aussi une musicienne, une pianiste, hein, fort. Pour moi, oui, c'est un boys club, mais quand même, il faut changer quelque chose. Il faut avoir plus de femmes dans ce genre de musique, quoi.
Et je crois que cette année, on a eu, peut-être nous à Melbourne et à Sydney, on n'a pas eu cette chance, mais il y avait deux films, peut-être pour les amoureux du jazz, c'est deux films à ne pas manquer, c'est Respect sur Aretha Franklin et le film sur Billie Holiday.
C'était vraiment bien fait aussi, hein, les films là. Mais oui, c'est ça. Alors pour moi, it's very beautiful. J'aime quand le film, I mean, I like men too, you know, but I think women, this is something, il y a quelque chose, hein, the emotions, les émotions, l'expriment bien pour moi, c'est ça, you know.
Et dites-moi, parlez-nous un petit peu de vos projets pour 2022. Il y aura des concerts, des tournées autour de l'Australie, on espère.
Oui, écoutez, pour moi, je voulais vraiment faire la musique que j'adore, jouer avec les musiciens que vraiment j'adore et donner quelque chose qui est plus grand même que la musique, de connecter les gens, c'est ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est vraiment to release une sorte de single, OK? Oui. Peut-être les deux mois et next year, l'année prochaine, je fais le planning d'un petit tour. Je commence avec Australie parce qu'il faut découvrir un peu et après, c'est international. Oui.
Absolument et on espère vous voir chez nous ici aussi à Melbourne prochainement.
Ah oui, hein, c'est sûr. Non, merci beaucoup. Et là, écoutez, Broken, c'est sur toutes les major platforms, Apple Music, le 3 décembre cette année, aussi à Jazz Festival, à Sydney Women's Jazz Festival. Je suis là, je fais clore le spectacle le 21, c'est un dimanche.
Oui.
Ça va être vraiment, vraiment cool. Et j'espère que vous, you can watch it, come and see it.
Absolument, et nos meilleurs voeux pour cette soirée de clôture pour le Sydney International Women's Jazz Festival. C'est le 21 novembre au Foundry 616. Merci infiniment et à une prochaine fois en personne dans votre studio.
Merci. Au revoir. Bisous. Bye bye.
Merci. À bientôt. Au revoir. And folks would never to suffer.
Voilà. Voilà Major Zulu donc qui nous interprète Trying Times et elle se produira au Sydney International Women's Jazz Festival entre le 12 et le 22 novembre prochain. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est mardi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Et belle fin d'après-midi. À très bientôt.
J'ai déposé un peu de mon costume. Il y a des étoiles coulées dans le bitume ce matin. Attendons demain, car le jour se lèvera encore. Le simple cours des choses en somme. Est-ce que tu souffleras? Siffle si tu l'oses.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.